très heureux de vous annoncer que c'est aujourd'hui le grand jour. Oui, le chiffre 1000 est abonné. 1000 est apparu sur mon admin de Spotify. Donc, vous êtes 1000 abonnés. C'est officiel. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus pour un sujet très simple. C'est que j'entends beaucoup de monde qui veulent lancer leur podcast. Puis je vois beaucoup de monde qui s'équipe notamment pour lancer un podcast vidéo, ce qui est éminemment plus lourd. Puis ceux qui s'équipent avant de le faire, ils le font jamais. C'est que là, vous allez dire « Non, moi je connais Roger, mais je vous le jure là, que tout le monde qui fait des podcasts vont vous le dire. Tu te fais approcher tout le temps par des gens qui disent « Hey, j'aimerais ça, j'aimerais ça. » Moi, je vous rappelle qu'Angle mort, là, je suis actuellement en robe de chambre. Je tiens mon iPhone à l'envers parce que le micro est en bas. Il y a une petite musique sur mon Apple TV de YouTube, qui est la musique que j'essaie de prendre à peu près chaque matin. Puis qu'après ça, j'envoie ça dans mon iCloud. Ça s'en va dans Audio Converter sur Internet. Ça le transfère de MP4 en MP3. Et après ça, je l'upload, télécharge, puis j'oublie, là, dans Balado Québec, où il est hébergé, puis il est distribué partout. Puis il est même repris par d'autres plateformes que je ne suis même pas au courant. Il y en a qui écoutent ça sur Podkite ou des trucs comme ça. Je vois ça des fois, hein, qu'est-ce que c'est ça? Fait que quand je vous dis 1000 sur Spotify, c'est qu'il y en a, d'autres ailleurs, puis beaucoup, tu sais. Ben, tout ça, ça coûte rien. Rien. Ça n'a jamais rien coûté faire Angle mort. Alors, vous allez dire, ça ne rapporte pas beaucoup non plus, mais ça n'a jamais été le sujet. T'sais. Ça fait que, juste pour vous encourager de faire crime, si ça vous tente à un moment donné, si pour X raison vous dites, j'aimerais ça jaser d'un sujet pointu ou peu importe, refaites la chaîne que je viens de vous expliquer. Parlez dans votre iPhone, envoyez ça dans votre iCloud, via Wi-Fi. Ça peut avoir l'air compliqué, là, c'est complètement zéro, c'est cave, là. Puis vous voilà à faire un podcast qui, si vous êtes assidu, puis le moindrement intéressant, mais c'est rare du monde qui sont fondamentalement plates, moi je vous le dis, bien, calvasse, un jour, vous réveillez un matin, puis vous dites à vos abonnés, on est rendu 1000. Hier, mon premier essai de ligne ouverte, ultra concluant, par contre, j'ai peur qu'il y ait du monde, justement, de vous autres, parce que j'avais parlé de ça, Angle mort et Patreon, qui se sont rendus, puis qui n'ont rien vu. Parce que, tu sais, justement, ça s'appelait des tests, pas pour rien. C'est que je l'ai starté avant l'heure, avant le 19h qui était programmé. Puis là, j'ai fait comme, « Hey, je suis pas capable de changer de caméra. » Ça fait que j'ai arrêté la diffusion. Puis dans ce temps-là, tu peux pas la reprendre. Ça fait que cette espèce de lien-là, il marchait plus. Là, en panique, je suis allé dire dans mon Patreon, « Hey, by the way, j'ai un autre lien. » Puis eux autres, ils reçoivent une alarme. Plus rapide que si j'avais fait quoi que ce soit dans l'anglais. Je ne sais même pas qui. Ça fait que bref. Il y avait du monde, on a fait, ça servait au bout, on a décidé c'était quand la diffusion. Et à partir de maintenant, une fois par semaine, je vais bonifier mon projet, mais c'est uniquement dans Patreon. Donc, si ça vous tente de suivre ça, abonnez-vous dans Patreon. Ça coûte genre 3$ par mois, là, si je ne me trompe pas. Vous avez les épisodes de spécial du gérant d'avance, en audio, etc. Bon, les forfaits relativement usuels. Mais surtout, c'est qu'on va bâtir ça ensemble. Ça fait que ça, je trouve ça bien le fun. Ça fait qu'hier, ça a été hyper éclairant. Là, j'ai vu que techniquement, j'ai ressorti ma GoPro, du coup. Bref, je vous gâte pas avec ça. D'ailleurs, l'épisode a duré une heure. Une heure de temps, on a échangé sur des questions dans le chat. Et c'est dans mon Patreon aussi. Ça fait que s'il y a des curieux de ce projet-là, ne vous gênez pas. Patreon.com/Marc Boilard. À quoi ça sert les critiques? Alors, Louise Cousineau, est décédé les derniers jours, à l'âge de 86 ans. Louise Cousineau, c'est celle qui a... On prétend, c'est ce que Richard Therrien dans Le Soleil dit aujourd'hui, on prétend que c'est un peu elle qui a inventé la critique télé, c'est-à-dire qu'elle était là pendant des décennies. Puis avant elle, la télé, c'était comme extrêmement snobé. Ça a l'air que, tu sais, les critiques en général ne parlaient pas de télé parce que c'était les tannants puis patof, là. Et que c'est un peu elle qui a inventé l'idée de critiquer la télé, mais comme une vraie critique. C'est-à-dire, j'aime ça, j'aime pas ça, pour telle raison ou telle affaire. Puis il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Si vous voulez lire le très long article de Richard Therrien, c'est très intéressant. Je souscris à l'ensemble de ça. Moi, je ne le connaissais pas personnellement. Mais il dit une affaire qui est très vraie. Il dit qu'il n'y avait aucune... Dans le temps que c'était Louise Cuisineau qui était à la presse, aucune conférence de presse pour lancer une émission commençait s'il n'était pas arrivé. Fait qu'admettons qu'il invitait 25 journalistes télé. Il peut en avoir 24 d'arrivée, puis si elle arrive une demi-heure plus tard, c'était celle qu'on considérait être la plus influente. Mais je dis bien « considérée », parce qu'à un moment donné, il faut réaliser l'impact que les critiques ont, qui est très différent selon ce qu'ils couvrent. L'impact des critiques pour un show d'humour, c'est énorme. Puis quand je dis c'est énorme, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Jean-Michel Anctil n'a jamais eu des bonnes critiques. Justement, il a toujours été un peu snobé. Oh, il fait des personnages, puis blablabla. Puis c'est lui qui a le record de vente, je pense, après Yvon Deschamps. Écoute, il a fait 574 shows sur une période quasiment de 5 ans. C'était dans le temps qu'il était avec Stéphane Ferland, justement, que je vous ai fait un épisode de spécial du gérant. Puis Ferland, il disait, c'est pas compliqué, plus je fais de shows, plus j'en vends. Ça arrête jamais. C'est Jean-Michel, un jour, qui a dit, Chris, j'en peux plus, là. Je suis tanné épouvantable, là, faire les mêmes affaires. Je capote. Puis même qu'il avait dit, oh, je veux plus faire ça, ça avait été... Pour que tu te rendes là, faut-tu que t'en fasses des choses. C'est un succès, là. Succès énorme. Mais pour que le gars lui-même fasse, hey, vous me gazez, tout le monde, je suis tanné, je me gaze. C'est ça qu'il disait, il se trouvait plus drôle, tu sais. Fait qu'il y a des exceptions de même où, critique ou pas, le public est au rendez-vous, c'est malade. Mais pour d'autres, quand la critique est mauvaise, mais... Tu sais, comme je pense à Jérémy Demey, qui a eu une critique incendiaire de Étienne Paris, je ne me trompe pas, ou Dominique Tardy, qui est allé voir son show, son dernier show, puis qui l'a descendu, là, tu sais, genre, c'est du réchauffé, tout ça, c'était particulièrement violent. Bien, inévitablement, ça a eu un impact sur ses ventes. Malgré que Le Devoir, puis l'humour, c'est pas la même crowd, mais quand tout à coup, tu reçois ça, là, c'est vraiment, vraiment élevé. Pourquoi? Parce que, ça, d'abord, t'informes beaucoup plus de monde à travers une critique que tu trouves dans un média populaire. Quand je dis populaire, en voulant dire qui est suivi par beaucoup de monde, que le show lui-même. Tu joues à l'Olympia, Mathieu Pepper, il y a 1000 personnes, là. C'est toujours bien 1000 personnes qui peuvent triper comme des malades. En parler à 3000 personnes, et c'est tout, là, c'est fini. Tandis que si tu t'en vas voir ça, puis qu'après ça, t'es à Radio-Can, t'es dans le Journal de Montréal, la presse, un peu partout, puis tu dis « j'ai trippé », bien là, il y a plein de monde qui, par définition, n'étaient pas là, qui vont faire « ah, dans mon catalogue de choix ». Maintenant, je suis obligé de vous dire que c'est pas la même affaire pour les médias électroniques. Parce que, quand même que Louise Cuisineau me disait « j'aime pas ça », me faire une idée, c'est peser sur un bouton, là. Puis ça se peut que je regarde ça, puis que moi, je dise « ben, sais-tu quoi, je suis juste pas d'accord avec ce que j'ai lu, fin de l'histoire ». Où ça a un rôle que je trouve qui est très intéressant, Hugo Dumas, Richard Therrien, c'est d'informer sur ce qui se passe à la télé. Ça, c'est très clair. Moi, il y a plein d'affaires. Écoutez, actuellement, je suis sur une série qui s'appelle Baron Noir. Puis je pense même, j'en ai-tu parlé hier? Moi, à force de faire une chronique ici puis un podcast là, mais c'est... Oui, j'en ai parlé hier, je pense. En tout cas, c'est malade. Bien, ça, c'est Guillaume Lepage, sur son Facebook, qui a dit ça. Tu sais, à un moment donné, l'influence de gens que tu as dans ton réseau, même si c'est éloigné, hey, Guillaume, on ne s'appelle pas à la fin de semaine, mais ça là, il y a une vertu à ça, de dire qu'il y a une offre télé qui est abondante sur les plateformes, la télé locale, la télé aux États-Unis. Et là, je t'informe que moi, j'ai vu ça et j'ai trouvé ça très hot. Ça, je trouve ça très, très bien. Mais on n'est pas nécessairement dans la critique, on est dans l'information. Louise Cuisineau, à un moment donné, pour vous donner une idée, puis moi, à chaque fois, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont à y mettre le tapis rouge de même? Ça marche pas, ça... Sérieux. Elle était quasiment enragée contre le show d'été qui était animé à Radio-Canada par Laurent Paquin. Je me souviens plus du nom. C'était un de ces millions de shows où est-ce que c'était en studio, puis là, c'était Laurent qui animait. Laurent a toujours été un bon animateur. C'est qu'on peut pas dire, ouais, peut-être dans le temps, non. Il a toujours été bon. Est-ce qu'il est meilleur aujourd'hui? Oui. Mais il a toujours été bon. Puis je me souviens de cette émission-là, c'était comme en fin d'après-midi, là, tu sais, ou début de soirée, vers 6 heures. Une musique très classique, variété, un qui chante, un truc là, une entrevue. C'était beaucoup debout autour d'un... C'était comme un genre de studio vitré, etc. C'était tout à fait raisonnable. Ça n'a pas passé à l'histoire, mais c'était pas un flop. Mais pour elle, c'était. Et puis là, elle écrivait que « Arrêtez de me dire d'aller voir l'émission pour que j'aime ça. » Tu sentais là qu'il y avait une espèce de désir de la part de l'équipe de dire « Madame Cousineau, dites pas ça, venez nous voir. » Mais sérieux, là, quelle influence! Comment elle fait pour faire perdre des codes d'écoute à quelque chose qui est dans ton salon et qui est gratuit? Tu sais, si tu me dis, moi, j'ai goûté à 12 gins, bien, ces gins-là, là, je les achèterai pas, les 12. C'est que tu fais un job que moi, je ferais pas. Puis, il faut que j'aille à SAQ. Puis, mais si tu me dis, j'ai écouté 12 émissions de télé, puis voici, j'en propose 4 que je trouve qui sont... Même, à vrai dire, moi, j'ai vu dans la vie des critiques extrêmement négatives qui servent à mort, qui font en sorte que le monde font, ben, coudonc, on m'a toujours bien informé sur ça, c'est tellement haïssable. Là, tu fais, oh, c'est pas si pire, whatever. Fait que le rôle de la critique... où ça peut nuire, c'est vraiment quand le geste à porter, il y a un prix à payer. C'est acheter un billet, c'est sortir de chez nous, etc. Maintenant, où la critique peut avoir une influence, c'est sur la réputation. Si des critiques disent « c'est mauvais, je trouve ça mauvais, telle affaire », tu peux devenir infréquentable. Je l'ai vécu quand j'avais sorti « Moi, si j'étais une fille », qui était mon premier show slash conférence, qui était basé sur un livre du même nom. J'avais reçu la pire critique au monde, puis c'était dans le temps du festival, puis du monde que je connaissais très bien regardait à terre quand je passais. Pourquoi? Ben d'un, il y a un malaise peut-être aussi à dire « Hey, c'est plate, t'as eu une mauvaise critique, on sait pas trop dealer avec ça. » Mais l'influence que, il faut dire un critique d'ailleurs, peut avoir, c'est de... Ça influence les esprits dans le milieu. Ça influence pas réellement les gens qui vont faire comme ils ont lu ça une fois, puis la vie continue, là. Mais dans le milieu, si tu es bien vu du milieu... Je vais vous donner un exemple. Prenez les journalistes. Les journalistes, là, ils ont des humoristes préférés, puis ils ont des humoristes qui parleront jamais. Aucun journaliste va jamais dire « Je suis allé voir Peter McLeod, j'ai donc ri. » Ça n'arrivera jamais. Ça fait que tu vas avoir le critique officiel du Journal de Montréal qui va dire « Je suis allé, puis finalement... » Mais sinon... Il n'y a rien qui te ramène, si tu veux, à ta mouvance intellectuelle, Peter McLeod. Il a beau vendre des billets, faire bouger les murs parce qu'il est efficace, ça n'arrivera pas. Par contre, il y a d'autres humoristes qui n'ont même pas de carrière d'humour, là, j'en nommerai pas, mais c'est ça, qui font... Il y a des retweets de leurs jokes, etc., parce que ça paraît bien. Ça fait que ça, les journalistes peuvent avoir cet impact-là. Momentanément, ça dure pas une vie, parce que toi, tu continues tes affaires, puis t'as l'affaire. Moi, je veux dire, à un moment donné, ces critiques-là, ça fait 20 ans. Ça fait un bout de charbert. Mais il y a des espèces d'aura où est-ce que la personne qui fait une critique va pas avoir une réelle influence commerciale, mais elle peut influencer la réputation dans le milieu. Puis les gens... ont comme tout à coup une allégeance plus proche, parce que ça paraît bien. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus clair. Le journal Voir, alors les plus jeunes s'en souviennent probablement pas. Le journal Voir, c'était un journal hebdomadaire qui était distribué dans tous les bars, les restaurants à Montréal. C'était gratuit. Vraiment un format tabloïd, noir et blanc. Puis c'était le journal qui était à la fine pointe de tout ce qui était culture. Avant le Devoir... Avant la presse, quand tu avais une critique dans Le Voir, c'est que tu étais in. Ben Le Voir, là, je me souviens pas d'avoir vu une bonne critique d'humour. Aucune, jamais. Il devait couvrir un show sur deux. Puis quand il y allait, tu savais déjà ce qu'il allait dire. Oh, Maxime Martin, en tout cas, c'est si telle affaire, tout. Ça donnait le ton à une communauté de gens qui travaillaient dans les médias, des journalistes, quand tu avais la plume dans Le Voir, ben, tu pouvais te déterminer. Tu n'avais aucun impact commercial. Zéro. Tu n'étais pas lu. Tu étais lu par une frange qui sort au chat de café puis au bon annoté, là, on se comprend. Et c'était purement francophone. C'était le Hour qui faisait ce job-là, je pense, anglophone. Mais tu avais une influence sur ce qu'on appelle, et là, je vais vous amener d'autres notions, un succès d'estime. Le spécial du gérant, là, ça a eu instantanément un succès d'estime. Donc, un succès d'estime, c'est dans ton milieu. Mais je ne fais pas des chiffres à la sous-écoute, je ne fais pas des chiffres au Denis Drolet, à Couple ouvert. Peut-être même que ça n'arrivera jamais, parce que c'est pas un podcast drôle. Les gens qui me suivent, c'est pas genre « Hey, mon gars, on rigole, on a tellement... » C'est pas ça. Ça fait que sa force de frappe est beaucoup moindre. Mais moi, ça m'a déstabilisé au bout quand j'ai fait comme... Déjà, au début, avec Dumb Pack, les commentaires, c'est « Calvaire, mon trousson, c'est... » C'est ce qui se passe. On appelle ça un succès d'estime. Anthony Cavana, quand j'avais sorti avec lui, j'étais, j'étais son gérant dans le temps, il y avait eu des critiques, mais hallucinantes. On avait tout mis ça avec une photo, c'était hot au bout, une pleine page dans la presse. Tout le monde, c'était unanime. Il n'a jamais vendu de tickets. Il ne vendait pas de tickets. Ça ne collait pas avec le public. Puis en plus, il avait repris beaucoup d'affaires qu'il avait faites au fil des années... à Juste pour rire ou autre, c'est que malheureusement, même si son show était largement composé de numéros originaux qu'on n'avait jamais vus ailleurs, ben le bouche-à-oreille, c'était « Ouais, mais j'ai vu pas mal d'affaires à télé. » Ça, c'est un moyen d'honneur. Quand tu te fais dire « C'est super bon, mais il y a beaucoup d'affaires que j'ai vues à TV », tu fais « Hey boy, je m'en vas-tu payer pour que... » Tu sais, c'est très, très, très fragile. On est encore dans le domaine de la critique, à quelque part. Mais c'est la critique, des fois, de ton meilleur ami qui va te dire ce qu'il en a pensé. Ça s'appelle une critique. Fait que ça aussi, il faut vous compenser. Bref, tout ça pour dire que concernant Louise Cousineau, je pense qu'on a toujours complètement surévalué, non pas sa vision de la télé, elle avait son propos à elle, ça aurait pu être d'autres, remarquez, t'sais, c'est pas une science exacte, mais je crois qu'elle était la terreur de bien des producteurs, puis encore aujourd'hui, j'ai jamais compris pourquoi, parce que je le répète, peu importe son influence, puis son aura, je dirais, plus que son influence, la réalité, c'est que, man, si quelqu'un me dit, moi, j'ai écouté la radio 98.5, puis je trouve ça extrêmement zéro, telle affaire, je l'écoute pas. C'est un bouton. Tandis qu'une mauvaise critique de show, ben là, c'est quelqu'un qui achètera jamais ton billet. Ben, quand tu convaincs des gens à ne pas y aller, c'est rare en tabarouette qu'ils font, ouais, finalement, moi, y aller. Leur choix s'est fait sur autre chose. Sur ce, merci à tous pour ce 1000 abonnés. C'est très, très, très apprécié. Et à bientôt.